Radio Béga.
C'est ici que ça se passe.
Bonsoir à tous, bienvenue au Bocal. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir pour une soirée extra. On va faire la conférence de Tanguy Deville qui va nous parler de son livre sur les oiseaux de Guyane. On va ensuite, si vous avez des questions par la suite, vous pourrez éventuellement les poser à Tanguy. Et si vous le désirez également, il y aura une séance dédicace avec vente de ses livres juste après.
Radio Béga !
C'est ici que ça se passe. French Guyana.
Bonsoir Tanguy.
Bonsoir.
Tu vas bien ?
Ça va, Peck.
Ok. Alors, déjà, moi, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi, de ton parcours, comment tu es arrivé en Guyane, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre et à devenir un petit peu ce que tu es.
Alors, ça fait beaucoup de questions d'un coup. En gros, mon parcours, si je remonte assez loin, bon, j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature en études. Et je suis arrivé en Guyane comme pas mal de naturalistes avec la campagne... la campagne Kawana du VVF qui se passe à Wala Yelimapo.
Tu peux nous préciser un petit peu plus
Bon, c'était une campagne de protection des tortues marines, enfin de protection et de sensibilisation. Moi, c'est vrai qu'on faisait surtout de l'animation à l'époque et on faisait également du transpondage sur les tortues, donc des patrouilles sur les plages, des comptages de traces le matin, ce genre de choses.
D'accord. Et du coup, comment tu avais eu ce contact avec le VVF? C'était... Dans le cadre d'un stage ou...
Non, mais c'était une campagne assez connue à l'époque, en France. Et j'avais un ami qui l'avait déjà faite. Et j'ai postulé, j'ai été pris. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et après, je suis resté en Guyane ensuite quelques années. Je travaillais pour un bureau d'études en environnement. Et donc là, je me suis mis un peu sérieusement à l'ornithologie locale. Parce qu'on faisait des inventaires, c'était beaucoup des inventaires, un peu tout type d'inventaires, donc aussi bien botanique, faune, ornitho, herpéto, etc. Et là, j'ai commencé à faire pas mal d'images, donc on a fait des tas de photos. Et après, j'ai fait des va-et-vient avec la métropole et puis ailleurs.
Oui, parce que j'ai cru comprendre que tu, en plus du milieu un peu équatorial, tu es aussi allé dans les milieux arctiques et subarctiques.
Ouais, alors j'ai fait un hivernage sur l'île d'Amsterdam dans le cadre d'un VCAT qui s'appelle les services civils ouais. pour le CNRS de Chizé, donc sur l'île d'Amsterdam qui est un territoire qui fait partie des terres australes et antarctiques françaises. Bon, Amsterdam c'est pas la plus connue des îles, sinon il y a la plus connue c'est Kerguelen et il y a également Crozet, Terre Adélie, et puis maintenant tous les territoires français qui sont dans le canal du Mozambique, Europa, les îles Éparses et Tromelin, tout ce secteur-là font partie des TAF maintenant.
Et du coup, tu travaillais sur les oiseaux aussi à ce moment-là?
Alors, c'était oiseaux et mammifères, puisque sur AMS, il y a un gros programme sur les otaries, et donc c'était beaucoup de l'otarie qui m'a occupé cette année-là. Ouais. Et puis les oiseaux, donc il y avait les gorfous, les albatros et les squats, les grands labs.
D'accord. Et c'était bien du coup enfin,
c'est super bien.
Parce que là, tu pars quand même plusieurs mois.
Un hivernage, c'est un peu plus d'un an. On part souvent, les relèves se font en novembre, mais il y a une période de passation de consignes avec la personne qui est avant. Parce que c'est des études à long terme, notamment en termes de démographie, de suivi de population. Du coup, il y a une passation de consignes qui se fait sur une période d'un mois à peu près. Donc on reste toujours plus d'un an sur place, on reste à peu près 13 ou 14 mois sur place.
D'accord.
Voilà, ouais. C'est super. Ouais.
Bah ouais, j'imagine. Et du coup, donc toi, tu as quand même plusieurs casquettes, quoi. T'es naturaliste, ornithologue, auteur, dessinateur, enfin, t'es grimpeur aussi.
Ouais, et donc après je suis revenu en Guyane et là j'ai retravaillé pour un bureau d'études et etc. Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la faune de canopée, aussi bien pour faire des images que des inventaires d'ailleurs. Et là j'ai fait la formation de grimpeur d'arbres pour être autonome.
Tu l'as faite ici, du coup?
Non, je l'ai fait à Besançon. Voilà, dans un endroit où ils font la formation. Qui est une formation longue, puisque c'est pas que de la grimpe, c'est la formation des lagueurs. Donc on apprend aussi à tailler les arbres, à la démonter. Il y a toutes les affaires tronçonneuses, et ci et ça. Donc c'est assez long, oui.
Et que du coup, tu pratiques aujourd'hui ou pas du tout alors...
En tant que professionnel, je ne l'ai pas fait beaucoup, je l'ai fait un petit peu. Et maintenant, je le pratique, ouais, bah, parce que là où j'habite, souvent, il y a des. Enfin, ouais, je sais gérer des arbres maintenant, donc y compris faire mon bois. Et puis souvent, chez les amis, ça me rend, ou la famille, ça rend bien service de connaître ce métier. Hein. Les gens, ils ont toujours des arbres à tailler, quand, du coup.
Bah oui, c'est sûr.
On taille des arbres.
Et puis ici aussi. Hein. D'ailleurs, ouais, à la maison, aussi. Si tu veux venir, il n'y a pas de souci.
Hier, j'ai fait un arbre à pin, là, hop là, tu vois, qu'il fallait démonter. Bon, j'ai démonté l'arbre à pin.
Mais du coup, quand tu grimpes, tu rencontres aussi des petits animaux qui ne sont pas toujours très sympathiques, peut-être
Ouais, guêpes, bah, y a les guêpes. Alors, les le gros problème, c'est les guêpes. Les fourmis, ça peut être un problème, surtout les Aztecas, parce qu'elles sont extrêmement nombreuses. Alors, les Aztecas, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les fourmis qui sont dans les bois canons, oui. Mais pas que. Elles font aussi les gros nids en triangle, comme ça, qui pendent, là. Et monter un arbre Azteca, enfin, des fois, on se fait couvrir de fourmis, donc il faut mieux éviter. Et le plus gros problème sont les guêpes. Du coup, pareil, quand je grimpe un arbre où il y a. Enfin, quand je grimpe un arbre. N'importe quel arbre, souvent la première montée, je la fais très doucement pour être sûr de repérer les éventuels nids de guêpes.
Parce que par exemple, quand tu te retrouves en haut d'un arbre et que tu te fais agresser par des guêpes, quelle est un peu la conduite à tenir? Tu montes tout seul ou t'es accompagné du coup?
Non, je monte tout seul. Ça m'est très rarement arrivé d'être accompagné. Pour deux raisons, parce que déjà, moi, j'aime bien être tout seul pour les affûts. Et puis, c'est très difficile de... Enfin, il y a très peu de gens qui grimpent les arbres, du coup, c'est assez rare d'être à plusieurs grimpeurs sur un site. Et quand on croise un nid de guêpe, donc ça m'est arrivé qu'une fois, en fait, où j'ai croisé un nid de guêpe que je n'avais pas repéré avant. Et en fait, le système de grimpe est vraiment efficace. On peut descendre assez vite. Et du coup, je suis descendu de 10-15 mètres le plus vite possible. Mais après, j'ai dû remonter parce que j'avais fini de m'installer. Quand je m'installe, en fait, je mousquetonne aux branches un peu tout mon matos. Donc, j'avais mon sac à dos avec les objectifs. J'avais ma paire de jumelles, j'avais mon pique-nique et tout qui était mousquetonné à 5 mètres des nids de guêpes. Du coup, j'ai attendu qu'elle se calme. J'ai tout récupéré doucement.
Ouais, pour le coup, tu avais repéré le nid. C'était plus facile de remonter.
C'est ça. Ouais. Après, c'était les mouches tatoues là, qui sont des nids, des guêpes qui font le nid vraiment collé à l'écorce par-dessous. Et qui sont très durs à repérer. Les autres, normalement, ça va, on repère.
D'accord, ben, merci. Et du coup, donc, après avoir travaillé pour ces biotopes.
Non, c'était Ecobios.
Ecobios.
Oui, le bureau d'études d'Olivier Tostin. Ouais.
Parce que là, si j'ai bien lu dans ce que tu m'as donné, il y a le parc amazonien aussi qui a participé à la réalisation de... Enfin, ou peut-être qui t'a aidé
Alors après, je bossais comme indépendant, donc sur des missions, notamment au moment des inventaires ZINIEF, là, qui ont occupé pas mal de naturalistes indépendants. Donc j'ai pu en faire quelques-unes, notamment avec le parc amazonien. Et après, j'ai lancé ce travail donc, en 2012, de rédaction et de photos. Et je l'ai monté avec une asso pour trouver des financements pour me payer les séjours sur le terrain. Et parmi les subventions que j'ai eues, il y en a une du parc amazonien. Ouais. Donc moi, ça m'a permis, en fait, à un moment, j'ai pu monter un contrat aidé avec l'asso. Il y en avait encore à l'époque.
Et donc avec l'asso
pu... Oui, c'est une association que j'ai en France, avec qui je travaille en France, qui est basée dans les Pyrénées.
D'accord. Mmh. Une association, donc, sur...
Le but de l'asso, c'est de faire de la... Enfin, entre autres, c'est de faire de la vulgarisation scientifique pour de l'éducation à l'environnement, dans un but d'éducation à l'environnement. Donc de produire des documents, des livres, des choses comme ça. Bon, c'est beaucoup pour mes projets pour l'instant, mais c'est une structure qui est pratique. Ouais.
Vous êtes nombreux, du coup?
On est cinq. Okay. Voilà, y a un président, un trésorier, un secrétaire et un secrétaire adjoint.
D'accord. Voilà. Donc du coup, quand tu n'es pas en Guyane, tu es dans les Pyrénées?
Oui, je suis dans les Pyrénées, oui. J'ai bossé aussi en Norvège, là-bas, j'y passais pas mal de temps sur les oiseaux marins. Ouais, j'ai le volet oiseaux marins qui m'occupe pas mal quand même, ouais.
D'accord.
Enfin, qui m'occupait pas mal, ouais.
Marin et migrateur, du coup?
Oui. Bon, les oiseaux marins sont. Est-ce qu'ils sont tous migrateurs?
Pas tous, mais
une bonne partie, oui.
Ouais. D'accord.
Ouais.
Radio PK, la radio de la campagne. La radio de la campagne. Radio PK. Oh là là, la radio de la campagne.
Et là, depuis quelques jours, tu fais des conférences un petit peu partout en Guyane. Donc je sais que tu es allé dans l'ouest, du côté de Saint-Laurent, Maripasoula.
Au début, donc l'idée est partie un peu du parc amazonien, donc qui m'avait filé une subvention, et une des conditions était de faire un retour à la population sur les territoires où j'avais pris les photos. Du coup, avec eux, on a organisé des conférences à Maripasoula, Saül, Talouen et Papaïchton. Et à être là, du coup, je suis venu 2 mois pour essayer de tourner plus que ça, notamment sur les endroits où j'ai fait beaucoup d'images et qui n'étaient pas dans le parc. Donc j'ai fait beaucoup d'images vers Awala Yelimapo. Donc j'ai commencé par là-bas. J'ai fait Awala Yelimapo, Mana Saint-Laurent. Ouais. Et je vais aller à Regina aussi, parce qu'il y a beaucoup d'images qui viennent de la réserve des Nouragues. Du coup, on va présenter le travail à Regina, avec une expo qui a été imprimée par le parc, qui va être à l'écomusée de Regina.
Oui, là, l'exposition, elle est toujours au parc amazonien.
Je crois qu'ils l'ont démontée, puis elle doit partir au parc le 14,
à l'écomusée
le 14, donc c'est bientôt. Et voilà, il y a une journée avec les scolaires aussi, dans 2 jours, le 13, c'est bientôt. C'est
dans deux jours.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais.
D'accord.
Voilà.
Et sur toutes les communes que tu as déjà fait, donc quel public, quelle personne vient, qui s'intéresse aux oiseaux, quel message tu souhaites faire passer
Alors, globalement, c'est qu'un public métro. J'ai eu très, très peu d'autres personnes qui sont venues. Voilà. Le message, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment vulgariser de l'écologie. Donc j'essaye vraiment de présenter de l'écologie pour faire comprendre aux gens ce qu'est l'écologie et comment les oiseaux vivent et pourquoi. Enfin, c'est vraiment c'est de l'écologie évolutive, donc comment on est arrivé à ces comportements dans une perspective évolutive. Donc effectivement, c'est pas des... je pense que si je refais une tournée de présentation, genre à Talouen typiquement, c'était pas du tout adapté... Je veux dire, aussi bien le fond que la forme, c'était compliqué avec des Amérindiens qui, c'est pas leur langue maternelle, c'est pas forcément des concepts qui sont naturels. Et du coup, ouais, c'est vraiment, globalement, je vois bien que ça s'adresse à un public de métro qui...
Ouais. Parce que c'était pas possible d'avoir des traducteurs sur place, ou même avec des traducteurs, c'est pas les mêmes codes et les mêmes...
On n'a pas réfléchi à cette question comme ça, ouais. Je pense qu'il aurait fallu vraiment que j'adapte vraiment le contenu, et j'ai une autre présentation vraiment radicalement différente. Ouais. Bon, c'est du travail en plus, faudra y réfléchir.
Ouais. Ouais.
Ouais.
C'est sûr, c'est pas toujours simple d'adapter un peu le support. Hein.
Non, oui. Ouais, c'est pas facile. Et puis je l'ai fait un peu avec des scolaires. Bon, là, c'était plus facile parce que c'était beaucoup des images plus centrées sur les espèces qu'on croise en haut des arbres. Donc, c'était très simplifié. Ouais.
Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui te passionne chez les oiseaux ?
Alors, il y a plusieurs niveaux en fait qui me passionnent chez les oiseaux. J'en parle un tout petit peu dans le bouquin parce que c'était comme introduction. Il y a vraiment l'aspect esthétique. Je trouve ça super joli, et c'est le premier truc. Après, il y a l'aspect identification, notamment au niveau des sons. À un moment donné, j'avais bien progressé, et c'est vrai que quand on arrive à identifier toutes les espèces de notre environnement sonore juste au son, juste dans son hamac, dans se baladant, c'est vraiment hyper grisant, en fait.
J'aime bien aussi.
C'est hyper grisant, ouais, on est là, mais ça, c'est ça, tac, 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 tac. Et après, il y a l'aspect vraiment compréhension, l'aspect vraiment de l'écologie. Quand on commence à dire ouais, pourquoi ils chantent le matin, pourquoi les oiseaux tropicaux ils font 2 œufs, pourquoi cet oiseau il a ces couleurs-là, pourquoi, je vais en parler tout à l'heure, pourquoi il y a une telle diversité dans les forêts tropicales, et ainsi de suite. Ouais, vraiment la compréhension des... En gros, ça part de la question, répondre juste à la question, pourquoi je vois un oiseau ici et maintenant ? Juste cette question, si on la creuse, en fait, il y a des milliards de réponses qui déboulent, parce qu'il faut savoir s'il est migrateur, mais du coup, savoir s'il est insectivore, frugivore, tac, 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 s'il parade, ou s'il est... Enfin, ça débouche sur plein de questions super intéressantes d'écologie.
Bah c'est vrai qu'en plus, les oiseaux, ils sont assez réglés. En plus, dans la journée, tu ne croises pas... Enfin, le matin, tu as des oiseaux qui vont chanter tôt le matin. Donc, tu sais à peu près quelle heure il est. Ouais. Et tu ne les entendras pas du tout de la journée. Tu vas les réentendre le soir.
C'est ça, oui. Et ils sont réglés aussi bien dans la journée qu'à l'échelle d'une année, également, normalement. Enfin, c'est globalement des animaux qui ont quand même des habitudes assez, effectivement, assez prévisibles. Quand on connaît,
quoi.
Après, c'est sûr que les espèces qui sont en très faible densité, même s'ils sont prévisibles, ça reste imprévisible, entre guillemets, bien entendu. Ouais.
Ou alors, il faut bien comprendre comment ils fonctionnent pour réussir à les voir.
C'est ça. Ça demande de la connaissance vraiment très fine. Ouais.
Et il y a des oiseaux que tu apprécies photographier, parce que peut-être qu'il y en a certains qui se laissent plus facilement approcher ou...
Alors, à un moment donné, j'ai vraiment fait beaucoup d'images de colibris parce que je trouve ça super joli, comme pas mal de gens, aussi bien pour les oiseaux que pour l'endroit où ils sont, au milieu des fleurs. Et j'ai beaucoup fait d'images de lecs également. Donc, je vais en parler tout à l'heure. Les lecs, c'est les places de champ, les endroits où les mâles de certaines espèces se rassemblent pour parader. Ouais, et là, les lecs, c'était vraiment une de mes grandes passions. Ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, il y a les colibris, les manakins, les cotingas, puis quelques tyrannidés qui font des lecs. Ouais, ça.
Et du coup, donc pourquoi plus ? Enfin, parce que du coup, tu préfères photographier des oiseaux de canopée plutôt que des oiseaux de type oco ou agami qu'on va plutôt retrouver au sol, ou t'es aussi opportuniste et...
Ouais, je suis opportuniste. Non, j'aime bien les oiseaux de sous-bois également, mais j'aime bien être dans les arbres. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à faire des photos en haut. Mais les oiseaux de sous-bois aussi, ouais, j'aime bien, ouais. Les ocos, j'ai passé quelques journées à les suivre là, pour faire des images. Et, c'est vraiment bien. Après, en haut des arbres, ça a plusieurs avantages. Et un des avantages qui est extrêmement grisant en Guyane, c'est l'aspect découverte. Et l'aspect de faire des choses où tu as vraiment l'impression qu'elles n'ont pas été faites avant. Quoi. Et c'est vrai que Jean-Libi Joël Blanche, il n'avait jamais été photographié dans son milieu naturel. Et du coup, là, quand on a commencé à le trouver, j'étais là, putain, faut le trouver, quoi, faire des images. Et c'est super motivant, en fait. Ouais. Le nid de la chevêchette, pareil, c'était un nid qui n'avait jamais été décrit chez cette espèce. Donc quand tu le trouves, tu es là, putain, mais
c'est un cadeau.
C'est l'occasion, ouais. Donc faut monter, quoi, faut aller faire des images. Ouais. Et cet aspect découverte, c'est vrai qu'il est... Il est assez marqué en canopée, parce que tout simplement, il y a moins de gens qui vont en canopée qu'en sous-bois. Quoi. Donc,
Complètement. Et puis, c'est pas dans la niche écologique, au final, ils ne fréquentent pas les mêmes milieux. Enfin, les oiseaux de canopée, les oiseaux de sous-bois.
Globalement.
Il y a une autre activité, au final.
Oui.
Et les mammifères, parce que je vois que dans ton livre, il y a des photos de babounes, de singes hurleurs et de singes attelles. Tu photographies un petit peu de mammifères ?
Ouais, mais je photographie même les arbres. Hein. C'est vrai que j'aime beaucoup faire des photos de paysages d'arbres, des épiphytes. C'est vrai que les plantes sont très photogéniques aussi en hauteur. Et puis donc les mammifères quand il y en a, les reptiles quand on en croise. Bon, on en croise quand même pas mal en canopée, surtout les petits lézards là. Et les singes, ça, c'est carrément trop bien quand il y en a qui viennent. Bon, souvent, c'est les petites espèces, mais dans les endroits non chassés, les grandes espèces, on les voit quasi quotidiennement.
Ouais.
Ouais, les quattas ou les babounes sont des singes communs quand ils ne sont pas chassés.
Tout à fait.
Les écureuils, j'ai vu une fois une taïra.
Ah ouais, dans les arbres, du coup.
Ouais, parce que c'est très frugivore comme espèce. Et du coup, j'étais en affût sur un arbre en fruits et elle a circulé, je l'ai vu passer. Elle venait...
Ça, c'est sympa.
Ouais, ça fait plaisir. Ouais.
Et d'ailleurs, tu pourrais nous raconter un moment vraiment qui t'a marqué ou pendant la réalisation de ce livre où y a une espèce qui a fait quelque chose qui était complètement inattendu ou...
Alors, ouais, il y en a un ou deux. Il y en a dont je vais parler tout à l'heure dans la conférence. Alors, j'ai peur d'en parler maintenant pour ne pas faire redite.
Un autre. Peut-être un autre moment où...
Bon. Il y en a pas mal.
Prédation, je sais pas, une harpie ou...
Bah, une harpie, je l'ai vue plusieurs fois dans les arbres, pas très souvent, mais une fois, je suis arrivé dans l'arbre, enfin, en grimpant l'arbre le matin, il y avait la harpie posée dedans. Et du coup, elle a décollé, comme ça. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est quand même rigolo de monter dans un arbre où il y a une harpie le matin. Et puis la voir s'envoler comme ça.
Ça doit même être impressionnant quand tu arrives là-haut et que tu vois ce gros oiseau.
Ben ouais, j'aurais bien aimé la repérer avant qu'elle décolle, mais ça n'a pas été le cas. Ouais. Mais ouais, on voit des tas de comportements. Mais globalement, il ne faut pas rêver non plus. Là, tous les comportements, ça c'est un livre qui paraît extrêmement dense. Parce que, en gros, c'est pas une quinzaine d'années de travail, mais ça s'est étalé sur une période d'une quinzaine d'années. Donc et du coup, c'est vrai que présenté comme ça, on a l'impression qu'on voit toujours des tas de choses. Et globalement, il faut énormément de patience. Il y a des fois où tu passes la journée en haut et on voit rien, quoi. J'ai grimpé une fois avec de la famille, là. Donc on était allé sur Atashipaka. Il y avait mon père qui était venu. Il a grimpé un seul arbre. On n'a pas vu, donc dans un endroit, c'est Atashibaka, au sommet d'Atashibaka, donc un endroit qui n'était pas chassé, qui est la forêt primaire et tout, on n'a pas vu un mammifère, on n'a pas vu un oiseau. Il a dû rester 3 heures en haut, il n'a pas vu un seul oiseau, pas un perroquet, rien quoi. Il était là, mais c'est nul, la Guyane, il n'y a rien.
Ouais,
je lui ai dit, bon, bah, déjà il y a des arbres.
Après, il faut déjà pouvoir réussir à apprécier effectivement d'être dans les arbres, mais c'est dommage. Ouais. C'est vrai que...
Mais du coup, c'est vrai que... Enfin, à part le cas particulier, enfin, il y a plusieurs cas particuliers. Soit les affûts vers les nids, effectivement, on a les espèces qui nichent, qui circulent. Donc, ou les affûts dans les arbres en fleurs ou en fruits, où il y a beaucoup de circulation. Mais si on est dans un arbre choisi un peu au hasard, qui est bon, souvent un émergent ou quelque chose comme ça, globalement, on peut passer une journée entière et puis voir très peu d'oiseaux. Ouais. Très, très, très peu d'oiseaux, des fois. Du coup, il faut attendre et...
Faut être patient,
ouais. Bon, souvent, je m'endors. Il y a peu d'arbres où j'ai pas fait de sieste, ouais. T'es couché dans le
ronfle. Au moins, tu reviens, t'es requin qui est.
Ouais, bah ouais, t'es tranquille.
Et du coup, tu pourrais nous parler un peu de la logistique, parce que si t'es tout seul, que tu dois grimper un arbre, que t'as ton matériel de photo, j'imagine que ça doit être lourd. Il faut être un petit peu organisé. Comment toi tu gères un peu ce côté matériel, et une fois que tu as choisi ton arbre, ou je sais pas comment tu fonctionnes?
Ouais. Mais après, j'en parlerai pendant la conférence avec quelques images, mais je peux déjà en dire un mot. Alors, j'ai fait très peu de missions tout seul, donc généralement c'est des sur le terrain, je suis jamais tout seul, donc on part à plusieurs. C'était des missions d'inventaire où il y avait des herpétos, des botanistes, etc. Donc la plupart des missions, toute la logistique était organisée soit par le parc, soit par le bureau d'études quand j'étais en bureau d'études. Donc toute la logistique de bâches, de hamacs, de bouffe, etc., de transport. Et après, moi, le matos, l'avantage de ces techniques des lagueurs, c'est que le matos est entre guillemets assez léger, dans la mesure où tout tient dans un sac à dos. Donc moi, je suis autonome en poids, je peux partir en forêt avec... Donc, par contre, ça fait porter 2 sacs à dos, donc souvent c'est assez lourd malgré tout, parce que j'ai le sac à dos, le gros sac à dos avec le matos à l'arrière. Donc il y en a pour 20-25 kilos, parce qu'il y a 2 cordes, j'en parlerai encore tout à l'heure, il y a la corde d'accès et la corde de travail. Donc ça fait 150 mètres de corde, plus... les mousquetons, les bloqueurs, etc., le baudrier. Donc il y a bien 25 kg de matériel de grimpe, plus le matériel photo, donc ça rajoute une petite dizaine de kilos, plus l'eau et le pique-nique. Ouais. Donc c'est vrai que quand je pars à la journée, souvent j'ai entre 40 kilos sur le dos. Mais souvent, les arbres que je grimpe, je les grimpe pas mal de jours d'affilée. Et quand j'ai fini, donc je laisse l'arbre équipé, ça me permet de grimper un arbre plusieurs fois. Donc si vraiment je suis pas trop en forme, je peux faire un aller-retour. Après, j'installe une petite bâche au pied de l'arbre pour stocker tout mon matériel pour d'un jour sur l'autre. Donc ah oui, il y a l'arbalète aussi, puisque j'équipe l'arbre avec arbalète, donc ça rajoute 3 kilos.
Ouais, ça c'est une technique aussi de faire passer.
Ouais, mais c'est pas si compliqué que ça. Non, ça reste des techniques qui ne sont pas ultra compliquées. C'est vrai que comparé à des grosses missions, bon, qui n'étaient pas du tout le même objectif, mais comme le radeau des cimes ou des choses comme ça, qui sont des méga missions avec énormément de logistique, Moi, je peux quand même grimper à peu près tous les arbres que je veux du territoire en étant autonome en transport. Donc, je peux partir à 2 jours de marche. C'est pas bon, c'est extrêmement fatigant, mais c'est pas impossible, quoi. Ça se fait. Ouais. Donc, c'est quand même super.
En termes de poids, ça représente quoi à peu près pour le sac plutôt grimpe et le sac photo?
Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. À peu près 25 kilos le sac grimpe et puis une dizaine de kilos le sac photo avec le pique-nique et la gourde. Ouais.
D'accord.
Ouais, c'est ça. Et ça fait une quarantaine de kilos.
C'est
ce qui est déjà
mal.
Beaucoup.
C'est déjà pas mal quand même.
Alors du coup, les missions qu'on a fait isolées, donc genre sur Atashibaka où il y avait du portage, effectivement, moi j'avais tellement de poids que je participais pas trop à l'effort collectif pour la bouffe. Donc bon, c'est comme ça.
Bah, on peut pas être toujours bon partout. Hein.
Ouais. Mais,
D'accord. Et ben.
Radio BK.
Alors, je t'ai préparé une petite liste sonore de Piaf Guyanais. Donc, okay. J'imagine que tu répondras assez facilement à ce blind test. Donc, t'es prêt?
On va voir, hein, parce que je manque d'entraînement. Là. Ça fait 2 ans que je ne suis pas venu en Guyane depuis fin 2016. Là, mais...
À mon avis, c'est quand même, enfin, c'est des espèces communes.
Oh, d'accord.
J'ai essayé de te mettre un
piège ou deux,
mais je suis même pas sûre que ce soit un piège.
Ok, voyons.
Vas-y.
Bon, il y en a qui doivent savoir. Bon, c'est le toucan avec rouge.
C'est ça. Vas-y, Soso, le prochain.
Bon, il y en a deux. Alors, a priori, tu parlais du... Alors, le premier, je pense, c'est un grimpeur bec en coin ou quelque chose comme ça, à mon avis.
Bah, c'est plutôt le deuxième.
D'accord,
que
le deuxième, donc, c'est, le... c'est,
oui,
c'est un grand tinamou.
Ouais.
Bon, c'est le coq de roche.
Bon, pour ceux qui ne connaissent pas.
C'est le Pio Hurleur de son vrai nom français et le Paille Paillot de son nom local. Ouais. L'Hippogus vociférans de son nom scientifique.
Tu nous parleras de lui pendant la conférence?
Oui, on va en parler un peu parce que lui, il fait des lecs et du coup, c'est un oiseau que j'aime bien.
Ouais, parce que lui, quand on tape sur un tronc et que ça résonne ou qu'on fait du bruit, il réagit. Je ne sais pas s'il réagit à nous ou si.
Ouais.
C'est vrai que c'est un oiseau, quand on fait du bruit, il peut réagir un petit peu.
C'est vrai qu'on entend des fois, même quand il y a un chablis qui tombe, souvent ça déclenche une série de chants.
Ouais.
C'est vrai que j'avais remarqué ça. Ouais. Et c'est l'oiseau qui a, à ce jour, le chant le plus volumineux au monde. Enfin, parmi les oiseaux qui ont été mesurés, tous les oiseaux n'ont pas été échantillonnés donc en termes de décibels, mais c'est un de ceux qui a été mesuré qui a le chant le plus fort au monde.
Ah,
avec,
je
ne me rappelle plus le chiffre, mais c'est fort.
Bah oui, il passe pas inaperçu celui-là.
Ben ouais. Alors ça, c'est l'oiseau pour lequel j'ai voulu apprendre à grimper dans les arbres, qui était vraiment un oiseau auquel je tenais particulièrement et que j'ai mis longtemps à photographier. Voilà, donc c'est la coracine chauve qui est... pas loin d'être un de mes oiseaux préférés de Guyane, quoi. Qui fait des lecs également. Donc qui,
C'est marrant parce qu'il a une drôle de tête plutôt celui-là.
Oh, il a une tête hallucinante, il est terrible, quoi. Il est trop beau.
C'est vrai que c'est ça.
Oui.
Pour ceux qui ne connaissent pas, il est un peu dénudé de la tête, bleu. Ouais. Un peu d'Alida. Bon, bah voilà, un peu d'Alida. Alors.
C'est l'oiseau qui chante en tierce mineure descendante.
Il est même musicien, en fait.
Qui est donc l'ibigeau gris. Un oiseau qu'on entend souvent. Pas souvent. Ouais, assez souvent en forêt, oui.
Ouais. On aime bien celui-là. Puis il a vraiment une drôle de tête.
Beau,
on dirait un savant fou avec des gros yeux.
Oui.
Vas-y, sauce.
Voilà, donc ça c'est mon deuxième oiseau préféré avec la corastine chauve, qui est l'oiseau sur lequel donc j'ai fait une expédition, un séjour de 15 jours sur le mont Galbao pour photographier cet oiseau. Et donc j'ai passé 12 jours, parce que sur les 15 jours il y avait un peu de marche, 12 jours dans un seul arbre pour lui. Bon, on le verra tout à l'heure, donc qui est l'oiseau cloche, la raponga blanc en français.
Ben moi, figure-toi que celui-là, il y a eu la dernière fois que je suis allée sur la réserve des Norailles, donc en ICA, en comptage faune, où t'es tout seul, fais pas trop de bruit, il m'a vachement dérangé, la raponga blanc, bizarrement.
Au Norailles ?
Mais je te jure, ouais. Ah ouais, il a pas arrêté de chanter. Ouais. Et vraiment, c'était. Et puis plus j'avançais sur le Léon, et c'était de plus en plus fort, et il m'a cassé les oreilles.
D'accord.
Quoi.
Ouais, c'est un oiseau qui est vraiment lié aux montagnes forestières, ouais. Donc qui fait des lecs sur les montagnes forestières, et les jeunes se dispersent, et du coup on peut en entendre un peu partout en Guyane. Moi j'en ai entendu un à la crique fouillé à Cayenne, quoi. Donc ça c'était hyper surprenant. Plus classiquement, il y en a sur la montagne de Caux, il y en a ouais. En ce moment il y en a un qui chante au village de Saül, qui est l'endroit pour, à mon avis, le plus facile pour l'entendre. Ouais. Mais en fait, c'est a priori des jeunes qui s'entraînent à chanter, mais qui n'ont aucun espoir de reproduction tant qu'ils ne rejoignent pas un lec, parce que les femelles vont sur les lecs pour les accouplements. Donc un oiseau qui chante en dehors des lecs, normalement, ne peut pas se reproduire.
Il y a peu de chances de se reproduire.
Alors un lec, c'est une place de chant, donc j'en ai touché un petit mot tout à l'heure, j'en parlerai plus longuement peut-être tout à l'heure. Il y a certaines espèces où les mâles se rassemblent en fait pour parader. Et ils s'occupent absolument pas de la nidification, et ils s'occupent que des parades et des accouplements, et les femelles, elles s'occupent de tout l'aspect logistique, c'est-à-dire la construction du nid, l'incubation, le nourrissage des jeunes, et elles ne vont sur le lec que pour les accouplements. Donc un oiseau qui ne chante pas sur le lec n'a pas d'espoir en fait de s'accoupler pour ces espèces là ouais. Bon, c'est les lecs, j'aime vraiment beaucoup ça. Ouais, c'est très intéressant comme truc. Ouais.
Merci. Ça marche pas. Alors, on va peut-être la voir sur ce coup-là. On a photographié. T'as une lec pas loin d'Inselberg. T'en as sur Caux.
Et Coq d'Orange, je dis ah ouais, non mais c'est hyper bizarre comme ah ouais. Ah ouais, tout à fait.
Les Coqs de Roche. Ah, c'est pas... Ah bah voilà.
Ouais, ils enchaînent vachement les chants. C'est vrai que souvent ils enchaînent pas autant. Ils font plus des miaou.
Ouais. Et après, il y a un temps de pause.
Ouais. Ouais, voilà, là, ils commencent à faire des cris plus classiques. Ouais, ouais voilà, ouais, souvent c'est ça qu'on entend. Ouais. Allez, on enchaîne tous les oiseaux de l'Ec, là. C'est le râle de Cayenne, non ouais.
Je ne savais pas trop.
Alors ça, c'est des oiseaux. Ça, c'est pas un oiseau, c'est deux oiseaux. Ça, c'est un duo de genre. Oui, c'est un duo. C'est des oiseaux qui chantent en duo et qui ont des parades comme ça en couple, et le chant en fait c'est rigolo parce que c'est un chant qui est construit à deux, c'est-à-dire ils chantent quasiment tout le temps en fait à deux. Il y a plusieurs espèces qui font ça, où vraiment la construction du chant qu'on entend est construite avec les deux partenaires, et c'est un rôle assez important dans les liens de couple et la parade, ouais.
D'accord, bah merci, je ne savais pas.
C'est l'ibis vert qu'on entend souvent sur les criques.
C'est ça, l'ibis vert. Il y en a certains qu'on entend régulièrement et on se dit mais c'est lequel déjà celui-là ? Sur le bord des routes, la nuit, les yeux un peu rouges.
Ah oui, c'est l'engoulement. Ah oui, c'est l'engoulement. Putain, mais pareil, il est, c'est le porraquier, ouais. C'est, ouais, ouais, mais c'est, peut-être j'arrive pas. C'est marrant, hein, sur les. Là, on reconnaît, mais ouais, c'est le porraquier, ouais. Ah, pas facile, hein.
Pas si simple. Puis, sans le contexte ouais, ouais. aussi, c'est pas toujours facile.
C'est un des deux grands caciques, là, c'est un peu bizarre ce qu'il fait, donc c'est soit le cacique huppé, soit le cacique vert.
C'est vrai qu'on
a priori, c'est des trucs assez ouais. bizarres, là. C'est peut-être le cacique huppé. Ouais, non, j'y... Ouais.
A priori, ce serait le vert.
Ouais, peut-être le vert. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas le chant le plus classique.
C'est pas le ouais. plus classique. C'est...
Là, c'est des cris un peu, ouais. Un peu étranges.
C'est vrai qu'elles ouais. sont un peu bizarres.
Oui.
C'est le dernier, ouais. Celui-là, je pense que... Ça...
Ah, celui-ci, il est bon.
Celui-là, si vous connaissez.
Eh ben ouais. ouais. Le troglodyte Arada, je crois, de son vrai nom.
C'est ça.
Troglodyte musicien.
Les premières fois qu'on l'entend, celui-là, on se demande si c'est pas un humain qui débarque de nulle part.
Ouais, ouais, ouais. Ah, il ouais, y a le petit truc où il remonte, là, où on l'entend qui remonte son ressort.
Ouais.
Le début du chant, ça fait comme un ressort ouais. qui est remonté un peu pour remonter la boîte à musique.
Ouais. Ouais, exact. J'avais jamais fait le rapprochement. Une fois, j'avais entendu un colibri et le son m'avait fait penser à l'appareil où il y a les boules où tu t'en tapes une et qui fait repartir dans l'autre sens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça te dit rien. Après, je sais pas lequel c'était, mais ça m'avait fait penser à ça.
D'accord.
Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do.
Radio PK.
Dansico, 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 dansico.
C'est ici que ça se passe.
Bon, ben voilà, l'émission se termine. Alors, je tiens à remercier Tony pour la technique, Romy pour la com, David pour le bar ce soir, Nesquik pour l'accueil, Sophie pour l'assignation, Philippe du camp Maripa qui nous a prêté les bancs pour faire la conférence ce soir. Et bien sûr, Tanguy, pour être avec nous et pour nous parler des oiseaux.
Avec plaisir. Merci à vous.
Radio PK,
la radio BPK.